Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode carte blanche. Ce sont nos épisodes consacrés à un article ou une enquête qui n'est pas paru chez un de nos médias partenaires. L'article en question est paru le 5 mars dans les colonnes de Mediapart. Il s'appelle « La justice enfonce le député Simian protégé par l'Assemblée ». Et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Antoine Rouget.
Bonjour.
Antoine, votre article nous intéresse puisqu'il est question de Benoît Simian, qui est député de la 5e circonscription de Gironde. Ce n'est pas le premier papier que vous consacrez à cette affaire, seul ou avec votre consoeur Hélène Salvi. Vous révélez dans votre article la décision de la Cour d'appel de Bordeaux, prise le 23 février, de renforcer les mesures de protection de l'épouse et ex-compagne du parlementaire. C'est Benoît Simian lui-même qui avait fait appel d'une interdiction par la justice de voir son épouse. Avant d'aller plus loin, Antoine, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Benoît Simian ?
Benoît Simian est le député de la 5e circonscription de Gironde. C'est l'ancien maire de Ludon-Médoc, commune dans laquelle il réside toujours et qui était donc au Parti Socialiste, qui a rallié ensuite La République En Marche, qui a été le candidat du parti présidentiel et qui a, lors des législatives de 2017, et qui a donc été élu avec cette étiquette, qui a siégé ensuite pendant un peu plus de 3 ans au sein du groupe La République En Marche, avant de quitter en octobre 2020 officiellement La République En Marche, pour rejoindre d'abord le parti radical et qui est aujourd'hui en petite, on va dire, traversée du désert politique, ou en tout cas il est en train de se chercher visiblement politiquement. Donc voilà pour la présentation de ce député qui est spécialisé sur les questions de transport, qui est pas une personnalité d'envergure nationale. Hein. C'est un député que je connaissais très peu avant de me pencher sur sa situation et sur ce qui lui vaut aujourd'hui un certain nombre de décisions, y compris judiciaires et des poursuites pénales également. Et donc c'est un député qui était dans le magma des députés En Marche, très peu visibilisé et peu sur le devant de la scène nationale.
Alors pour bien comprendre de quoi il est question, il faut remonter au printemps dernier, à ce qui aurait pu être un avatar assez classique, hein, d'un divorce difficile. En mai 2020, la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l'épouse de Benoît Simian. Le 3 août, l'ancien maire de Ludon-Médoc a également interdiction d'entrer en relation avec elle pour une durée de 6 mois. Comment la justice justifie-t-elle alors cette interdiction ?
Donc on est effectivement sur la première séquence d'un divorce, comme vous le dites, compliqué, qui peut arriver évidemment dans bien des cas et au-delà de la personnalité d'un député, ce qui est assez particulier en l'occurrence et pourquoi on a commencé à s'intéresser à cette affaire, c'est que effectivement en attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'épouse de Benoît Simian, le juge aux affaires familiales avait recommandé ou en tout cas demandé aux élus de pas interférer dans la tranquillité de chacun des conjoints lorsqu'il a rendu sa décision en mai 2020. Or, pendant plusieurs semaines, Benoît Simian s'est introduit au sein du domicile conjugal. Il a revendiqué la jouissance d'une annexe, d'un petit studio qui se situe dans le jardin de la maison pour y implanter une permanence parlementaire. Et donc, il ne respectait pas les recommandations du JAF, du juge aux affaires familiales, qui demandait à laisser tranquille finalement chacun des conjoints. Donc, c'est ce qui a justifié, dans des termes déjà assez sévère, hein. La première décision du tribunal de Bordeaux, donc avec une ordonnance de protection de 6 mois, interdisant formellement cette fois-ci Benoît Simian à contacter directement ou indirectement son épouse afin de la laisser tranquille. Et le tribunal de Bordeaux, dans ses motivations, disait déjà que les accusations de harcèlement formulées par son épouse étaient vraisemblables, sérieuses, et donc il qu'il convenait de simplement de la protéger et de lui assurer toute tranquillité. Donc c'est là vraiment que l'affaire va sortir de l'ordinaire, si je puis dire, de ce qu'on peut décrire voilà comme un divorce compliqué, et qu'on va rentrer vraiment dans un dossier pour le coup d'une nature assez exceptionnelle. C'est que Benoît Simian, malgré ses différentes décisions, d'abord la décision du juge aux affaires familiales, ensuite l'ordonnance de protection du mois d'août, eh bien il va continuer à venir sur le lieu de domiciliation de son épouse. Il va intervenir sans lui demander évidemment son accord, alors que même qu'elle formule à de nombreuses reprises le fait qu'elle n'a pas envie de le voir. Il va insister sur le fait qu'il veut installer sa permanence parlementaire dans le jardin, dans le studio du jardin. Il va y installer même une grande pancarte, et elle va être obligée finalement de porter régulièrement plainte à la gendarmerie, qui va la procureure de la République de Bordeaux va décider de lui octroyer un téléphone grave danger, hein, qui est un téléphone d'urgence en fait pour appeler les forces de l'ordre et notamment les gendarmes en cas de crainte. Elle va l'utiliser à une reprise. Finalement, elle se retrouve dans un contexte d'extrême vulnérabilité face à son époux, qui est élu de la République, député, représentant du peuple, et qui ne se conforme pas à des décisions rendues par la justice. Look at how feathered his cocks are, see how seamless his frocks are. Look at his paper beam over that rock star. Look at how long she walks and how far was she lost, or maybe she was not for traveling in the stock car anymore. Maybe she spent her formative years dealing with his contentious fears and endless cheers that are endless tears. Or maybe she just got tired of watching him sniff white off a starless breast, treating his wife like less than a guest, getting his girl to clean up his mess, never showing weakness unless it's war season. Season of the war, she's trying to cut the cord. She's tired of planting her knees on the cold hard floor.
Une enquête est donc ouverte et le 9 décembre, la procureure de la République de Bordeaux, Frédéric Portery, demande à l'Assemblée nationale de lever l'immunité de Benoît Simian. Le parquet estime devoir le placer en garde à vue. Que répondent les députés ?
Les députés refusent cette demande de lever l'immunité, et là c'est quand même la stupeur. Moi, je trouve que par mes fonctions et mon travail à Mediapart, je suis régulièrement un certain nombre de demandes de lever d'immunité, donc qui sont formulées au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, hein, selon le ou la parlementaire concernée. Il faut savoir que c'est quelque chose de très codé, c'est-à-dire qu'un procureur ou une procureure ne sollicite pas comme ça de bon matin l'Assemblée ou le Sénat pour demander la levée d'immunité d'un parlementaire. C'est un acte assez important, lourd, qui impose même une certaine gravité. C'est normal. Les élus sont, encore une fois, élus représentants du peuple et des citoyens à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, il est normal que la justice prenne toute la mesure de ce qu'ils représentent au moment de saisir et demander la levée de leur immunité. Et donc la procureure de la République de Bordeaux, elle réunit les conclusions de la brigade de recherche de la gendarmerie qui enquête sur les faits présumés de harcèlement visant Benoît Simian. Elle considère que c'est suffisamment grave et important pour le placer en garde à vue, et donc elle rend un rapport, une synthèse de son enquête qu'elle transmet à l'Assemblée nationale, mais elle transmet pas cette synthèse directement. Elle fait valider cette synthèse par le parquet général de Bordeaux. La demande de levée d'immunité passe par le ministère de la Justice à Paris, et une fois que tout le monde a validé, est transmis au bureau de l'Assemblée nationale. Donc il y a un circuit quand même qui prouve là aussi que c'est pas une demande prise à la légère. Et le bureau de l'Assemblée nationale, donc le 9 décembre 2020, contre toute attente, parce que c'est un dossier assez lourd, assez emblématique. Comme je vous le disais, il est quand même assez rare qu'un parlementaire, sur des faits qui ont quand même des conséquences immédiates, directes sur son épouse, ne se conforme pas à des décisions rendues par la justice. Et donc, contre toute attente, l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale décident de refuser la levée des parlementaires. Donc, nous, on s'en est évidemment beaucoup étonnés. On a interrogé plusieurs participants et participantes au bureau de l'Assemblée nationale. Et il se trouve que certains d'entre eux nous ont répondu qu'ils n'avaient pas bien compris en fait la demande de levée d'immunité, que le dossier leur avait pas été clairement exposé, et que évidemment si les faits, notamment qu'on avait déjà rapportés hein, dans des articles de Mediapart, mais tous les élus, les députés n'avaient pas eu connaissance avant de prendre leur décision des articles de Mediapart, et donc ils nous ont clairement dit que s'ils avaient eu vent de ce qui était reproché à Benoît Simon, ils auraient voté la demande de levée d'immunité. Donc l'Assemblée a pris sa décision. Visiblement, certains élus, en tout cas, n'avaient pas un avis très éclairé sur le sujet, mais en tout cas, ils se sont prononcés. Et donc, la demande de levée d'immunité a été rejetée. Le parquet et la procureure de la République de Bordeaux l'ont appris par la presse, ils n'ont même pas été informés directement, et donc les enquêteurs et le parquet sont dans l'impossibilité aujourd'hui d'entendre Benoît Simon sous le régime de la garde à vue, et donc de prolonger leur enquête par une garde à vue et par l'audition du principal mis en cause sous le régime de la garde à vue.
J'ajoute que vous avez également essayé de contacter à plusieurs reprises Benoît Simon, qui a refusé de vous répondre. Quoi qu'il en soit, l'immunité parlementaire de Benoît Simon n'est donc pas levée, vous venez de le dire, ce qui ne l'empêche pas de se voir infliger un nouveau revers judiciaire. Le 23 février, le député avait fait appel du jugement en doute, l'empêchant d'approcher son épouse. Non seulement il n'a pas gain de cause, mais les magistrats prolongent en plus cette interdiction et l'assortissent d'une mesure de protection de son ex-compagne. De quoi s'agit-il exactement ?
Donc effectivement, Benoît Simon avait fait appel de l'ordonnance de protection du mois d'août, comme il en avait évidemment le droit. Il y a différents niveaux dans les procédures judiciaires qui permettent évidemment d'exercer les droits de la défense aux personnes de se défendre, y compris de contester des décisions. Donc vous avez dit tout à l'heure que Benoît Simon m'avait pas répondu. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, il n'a pas répondu sur mon dernier article. Là aussi, encore une fois, il en a tout à fait le droit. Mais je l'avais eu précédemment, et donc il m'avait expliqué notamment qu'il avait fait appel de l'ordonnance de protection du mois d'août, qu'il l'a contesté. C'est effectivement ce qu'il a fait. La décision du 23 février, elle est très intéressante parce qu'elle vient confirmer le jugement qui avait été rendu au mois d'août, et en des termes encore plus sévères. C'est-à-dire que il y a eu un vrai effet boomerang en fait dans l'appel formé par Benoît Simon, c'est-à-dire qu'il contestait le fait que son épouse devait être protégée, le fait qu'il n'avait pas le droit de rentrer en contact directement ou indirectement avec elle, et la justice a non seulement considéré qu'il était nécessaire d'empêcher tout contact, mais de prolonger la durée de l'ordonnance de protection qui était prévue initialement sur 6 mois, et donc cette fois-ci ça va être sur l'ensemble la totalité de la période du divorce. Mais en plus, dans sa décision, la cour d'appel et la chambre civile de la cour d'appel, composée de 3 magistrats, va encore plus loin dans la caractérisation et dans la définition des actes de Benoît Simon. Et notamment, ce qui a beaucoup étonné les magistrats et qui l'ont rapporté dans leur décision, c'est que Benoît Simon a continué à se rendre au domicile de son épouse, alors que la justice lui en avait formellement interdit le droit. Et donc, il a continué à le faire à de nombreuses reprises, ce qui a encore poussé son épouse à porter plainte, et surtout ce qui a eu des conséquences sur son épouse et ses enfants, notamment en termes de stress, d'anxiété, etc. Et donc ça, c'est clairement mentionné dans la nouvelle décision de la cour d'appel de Bordeaux, et c'est en ça que c'est assez ravageur. C'est pour ça qu'on a titré l'article « La justice enfonce le député Simon », parce que alors qu'il fait appel, les termes de la décision en appel sont encore plus accablants sur la définition de son comportement que ceux qui étaient en première instance.
parallèle de tous ces événements, l'ironie ou le cynisme du sort veut que Benoît Simian soit co-signataire de la proposition de loi sur les violences conjugales. Le texte prévoit un alourdissement des peines dans des situations de harcèlement moral au sein du couple. Et c'est précisément, entre autres, ce qui reprochait à Benoît Simian par un juge aux affaires familiales.
Oui, c'est d'ailleurs l'un des enjeux et l'une des raisons pour lesquelles, évidemment, on s'est intéressé au sujet et on le documente de manière aussi précise, c'est que, encore une fois, notre rôle de journaliste, c'est pas de nous immiscer dans une procédure de divorce, de dire qui a raison, qui a tort, etc. Absolument pas. En revanche, nous, à Mediapart, on travaille sur la question de la probité des élus, de leur comportement, de la conformité de leur comportement avec leur discours politique et public, et en rappelant de manière constante et régulière que les élus et les parlementaires sont les représentants du peuple à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et que on peut pas, comme le fait Benoît Simian, revendiquer dans le cadre d'une action politique au sein d'un quinquennat quand même qui a fait de la question de la défense des droits des femmes une priorité, hein, une grande cause du quinquennat. On ne peut pas, comme Benoît Simian, revendiquer et porter des propositions pour alourdir les peines contre le harcèlement dans le cadre conjugal et en même temps se comporter de la sorte avec son épouse. Quand je dis se comporter de la sorte, c'est ne pas se conformer à des décisions de la justice qui lui interdisent, parce que cela a des conséquences quotidiennes sur son épouse, de se rendre à son domicile ou d'entrer en contact direct ou indirect avec elle. Et donc nous, c'est vraiment ce décalage-là, cette hypocrisie même qu'on a voulu mettre en exergue à travers ce dossier, et est venu se greffer effectivement le fait en plus que l'Assemblée nationale ait refusé de lever son immunité parlementaire, ce qui là aussi interroge grandement au regard des positions affichées hein, par la majorité actuelle pour la défense notamment des droits des femmes ou contre les phénomènes de harcèlement et de violence conjugale. This is my freedom. This is my voice. My piece of freedom. My blind eyed choice. These are my movements. These are my arms. This is my trumpet.
Anton, j'ai deux dernières questions à vous poser. Vous écrivez « Adepte du concept de syndrome d'aliénation parentale », une théorie en vogue chez les masculinistes. L'élu ne voit dans les démarches entreprises par son épouse que sa volonté de le priver de ses droits de père et de lui nuire dans ses fonctions de député. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre pensée, notamment au sujet de cette théorie ?
Le syndrome d'aliénation parentale, justement, en plus, et j'invite les auditeurs à se rendre sur Mediapart. On a dédié vraiment une enquête particulière là-dessus. C'est une théorie importée de scientifiques d'Amérique du Nord il y a quelques années, qui est très en vogue chez les masculinistes et qui part du principe que dans les litiges et notamment dans les procédures de divorce, les mères utiliseraient finalement leur influence sur les enfants pour notamment, dans certains cas, dénoncer des violences, etc. Et donc en gros, c'est une théorie qui développe l'idée que, par essence, il y aurait des mères manipulatrices dans ce cadre de procédure pour garder les enfants, la garde des enfants, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez critiqué et surtout qui est dévoyé par de nombreux groupes masculinistes, d'abord en Amérique du Nord et puis on le voit vraiment se développer en Europe. Et il se trouve qu'au moment des premières difficultés qu'il a rencontrées lors de son divorce, Benoît Simian, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans son action politique, a commencé vraiment à travailler sur ces sujets-là. Et donc, il y avait évidemment une conjonction de calendrier qui n'était pas du tout neutre. Il faut aussi constater, moi je le vois depuis quelques mois, que Benoît Simian prend aussi des positions publiques assez osées contre le fonctionnement de la justice en France. Il a pris lundi dernier la défense publique de Nicolas Sarkozy, qui a été lourdement condamné dans comme tout le monde le sait, dans une affaire de corruption, en accusant la justice d'être politisée. Et ça aussi, c'est évidemment pas neutre. Quant à la dernière affirmation hein, du passage que vous avez cité, selon laquelle l'épouse de Benoît Simian utiliserait la situation comme prétexte pour l'attaquer politiquement, etc. Bon, là encore, j'ai envie de dire que c'est une défense assez grossière. Hein. La ficelle est très grosse et c'est d'ailleurs sur tous les sujets, c'est ce que nous renvoient les personnes qui sont concernées par nos enquêtes, c'est de dire bah, tout ça est une manière simplement de m'abattre politiquement, etc. Mais l'épouse de Benoît Simian se serait bien passée d'un tel quotidien et surtout d'une telle publicité. Voilà, elle a évidemment rien à y gagner. Je pense que tout le monde est assez intelligent pour le comprendre.
Oui, un dernier mot d'ailleurs, hein, Anton, sur ce point, sur le signal que renvoie cette affaire. Alors, à ce stade et sur ce point, Benoît Simian est certes présumé innocent, mais le message envoyé aux femmes victimes de violences conjugales est évidemment désastreux.
Oui, et en totale contradiction avec, encore une fois, avec les volontés affichées hein, par la majorité présidentielle, par le président de la République. C'est la grande cause du quinquennat. On est dans un contexte, en plus, lié à la crise sanitaire, au confinement. On voit qu'il y a une explosion quand même de beaucoup d'indicateurs sur les questions de violences faites aux femmes. Il y a une libération de la parole. Et évidemment, voir qu'un parlementaire ne s'est pas conformé à une ordonnance de protection, c'est à la fois stupéfiant et par certains atours assez inquiétants aussi.
Merci beaucoup Anton Rouget d'être venu au micro de Podcasting. Je rappelle le titre de votre article publié par Mediapart, La justice enfonce le député Simian, protégé par l'Assemblée. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Marion Ruault et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.